Vous écoutez
RMC.
32-16 RMC, la Direct Studio, c'est parti pour l'after, messieurs, demain soir, Ukraine-France, 20h45. Sans Mbappé, comment jouer sans lui? On en parle, on en débat dans un instant. D'abord, quelques infos Mbappé. Vous savez qu'il y avait une sorte de zone d'ombre sur sa blessure présumée qui lui a valu de quitter le rassemblement. Alors, aucune lésion décelée après IRM, ça on l'avait dit. Pourtant, forfait pour les deux matchs, demain et mardi. Tiens, écoutez d'abord le sélectionneur Didier Deschamps, qui a voulu étouffer tout malaise.
Kylian a ressenti quelque chose en fin de match. On a fait des examens où le terme rassurant a été utilisé, mais rassurant dans le sens où ça écarte une rupture de fibre. Et là, il serait parti sur certainement plusieurs semaines et plus d'un mois, probablement. Du fait des délais qui sont les nôtres, je vous répète, il n'y avait aucune possibilité qu'il puisse être apte demain et mardi.
Voilà, bon. Ça paraît assez clair, hein. C'est vrai que certains disaient peut-être que le PSG a une vraie influence sur l'équipe de France, qui voulait prendre aucun risque. Vous dites, s'il n'y a pas de lésion, pourquoi ne pas rester pour jouer mardi éventuellement?
On se rappelle ce qui s'est passé l'année dernière, où il a traîné des petites blessures à droite à gauche sur son début de saison.
C'est vrai, t'as raison.
Son début de saison, et que ça a pourri ses performances avec le Paris Saint-Germain et en équipe de France. Donc je pense que c'est un choix qui est judicieux.
Surtout après, qu'on le veuille ou non, la semaine très compliquée qu'il a passée juste avant le rassemblement de l'équipe de France, avec son non-transfert finalement au Real Madrid. Donc on peut comprendre que le staff de l'équipe de France et surtout Kylian Mbappé n'ait pas envie de prendre de risques.
Je pense vraiment qu'il a passé une semaine compliquée. Moi, je pense qu'il a tiré le jackpot là.
C'est quand même toujours nerveusement un peu compliqué.
Oui, stressé, mais je pense que là, il est bien, là. Il a ce qu'il veut.
Ouais, mais un problème au mollet, quand même, tu vois, c'est quand même souvent une partie du corps qui arrive quand t'es fatigué, quand tu peux avoir des soucis, pourquoi pas extrasportifs.
Psychosomatique, alors.
C'est quand même dommage qu'on n'ait pas, moi, je sais que quand t'as une blessure musculaire, t'as des grades. T'as le grade 1, qui est en effet la contracture qui dure 5 jours, et au bout de 10 jours, normalement, t'es apte à reprendre 100%. T'as le grade 2, etc., grade 3. Donc, c'est dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de clarté, de transparence, et au moins on sait, voilà, il a telle blessure et il ne pourra pas revenir, mais pourquoi toujours garder un voile là-dessus? C'est un peu dommage.
Souvent blessé, quand même, Mbappé, hein, de plus en plus, j'ai l'impression.
Il a un jeu explosif, il a un jeu de dribbleur, il peut prendre des coups.
C'est pour ça que, tu vois, quand on parle de Mbappé, je fais une petite aparté où à chaque fois, moi, je dis que c'est un joueur qui est extraordinaire, certes, mais que j'ai du mal encore à juger son potentiel réel et sa capacité à être un ballon d'or dominant à la Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. C'est justement à cause de ses blessures qui ont tendance à se multiplier, de son style de jeu, Kevin, qui, tu l'as dit, hein, c'est un peu, ça use. Il a besoin de ce démarrage sur les 10 premiers mètres, là où il prend tout le monde de vitesse. Et j'ai l'impression que son style de jeu est en train d'user son corps. Donc là, je pense, il est encore jeune, il a encore le temps de régner sur la planète football, du football européen pendant de longues années. Mais je pense qu'il, très très vite, il va devoir apprendre à se réinventer. Parce que il n'aura pas toujours cette capacité physique qu'il a et qui lui permet justement de faire la différence.
Alors, comment jouer sans Kylian Mbappé demain soir à 20h45 face à l'Ukraine? Appelez-nous 32-16. On veut vos idées, vos avis là-dessus. Nos infos bleues du jour à l'entraînement. On a traîné à Kiev autour du stade. Hein, Loïc Tanzi, Jeannot Rességuier. Pas de mise en place de la part du sélectionneur Deschamps à Kiev ce soir. Tout le monde s'est entraîné à part Thomas Lemar qui a fait les tours de terrain. Benzema s'est entraîné au tir au but tout seul après la séance. Hein, bon, voilà, ça confirme que c'est lui. L'homme attitré dans l'exercice en équipe de France. Composition probable des Bleus. Hugo Lloris dans le but, défense à 4. Dubois, Varane, Kimpembe, Digne. Devant la défense, deux hommes. Pogba et un homme qui était plutôt séduisant face à la Bosnie, Aurélien Tchouaméni, ancien Bordelais, monégasque. Coman, Rabiot à gauche, Coman à droite, Griezmann, Benzema devant. Alors c'est vrai que ça ressemble au 4-4-2 que moi j'ai vraiment en tête. Novembre 2020, Portugal, France, Lisbonne. Peut-être pour moi, le dernier match référence de l'équipe de France, c'était il y a moins d'un an, tout de même, c'est pas si loin. Victoire 1-0, sans Mbappé. Rabiot était déjà à gauche, Coman déjà à droite, il avait été excellent d'ailleurs. Ouais. Griezmann, et c'était pas Benzema, c'était Martial, qui avait été bon à défaut d'être efficace. Est-ce que ce schéma-là vous plaît, Kevin, et après Jonathan?
C'est toujours pareil, tu disais tout à l'heure, comment on va jouer l'équipe de France? Est-ce que c'est comment on va jouer l'équipe de France comme nous, on aimerait qu'elle joue? Ou comment on va jouer l'équipe de France avec Didier Deschamps à sa tête?
Comment tu aimerais qu'elle joue?
Moi, comment j'aimerais qu'elle joue? Moi, je ferais un 4-3-3 pour demain, avec la défense, moi, personnellement, je mettrais Théo Hernandez et Mukiele, même si je peux comprendre qu'un mec qui arrive dans le groupe pour remplacer quelqu'un, c'est difficile de le faire passer devant Dubois. Donc ça, je l'entends bien sûr, la défense normale. Et derrière, j'aurais mis Tchouaméni, Vertu et Pogba à 3. Tu vois, trois joueurs qui sont polyvalents. Et à droite, Antoine Griezmann. À gauche, Coman, parce que c'est là où il évolue en club et c'est là où il est le meilleur. Et en pointe, Karim Benzema. Ça, ça aurait été mon 4-3-3. Maintenant, sur le 4-4-2 asymétrique. Asymétrique pourquoi ? Parce que Rabiot n'est pas un ailier, mais il va prendre ce rôle de Matuidi, qui est un joueur qui va aider dans les 3 milieux de terrain. Donc c'est un 4-4-2 asymétrique, parce que ça peut être aussi un 4-3-3, mais décalé, donc d'où l'asymétrie. Et derrière, c'est vrai que Coman avait bien fait le travail à droite. Hein, de toute façon, un ailier, ça peut, c'est toujours polyvalent, ça peut jouer à gauche et à droite, même s'il y a toujours un côté préférentiel. Mais... moi, ce qui me chagrine vraiment, c'est que on est en 2021, c'est que la Coupe du Monde, c'était il y a 3 ans, et qu'on ne connaît toujours pas le système de jeu de l'équipe de France. Est-ce que c'est un 4-3-3 comme ça a été? Est-ce que c'est... on est sûr que c'est pas un 3-5-2 qui a été catastrophique, mais est-ce que c'est un 4-4-2 en losange comme ces dernières semaines? Est-ce que c'est un 4-4-2 à plat? Est-ce que c'est un 4-4-2 asymétrique, etc., etc. Et ça, je trouve ça dommage.
Jonathan.
Bon, non, moi, ça me convient pas du tout. J'aime pas, l'équipe l'a proposé par Deschamps demain. J'aime pas
le schéma,
J'aime pas le schéma, j'aime pas ce 4-4-2 asymétrique. Je trouve que on a des joueurs quand même pour, mettre en place un style de jeu. Et j'ai bien dit style de jeu qui permettrait à l'équipe de France d'être dominante et avoir de la personnalité. J'aime bien la proposition de Kevin. Je pense qu'il y a de toute manière beaucoup 15 schémas tactiques avec différents choix qui seraient mieux que ce 4-4-2 asymétrique. Je comprends pas pourquoi on s'entête là-dedans. De toute manière, je pense que Deschamps est un petit peu en ce moment dépassé et ne sait plus vraiment comment prendre en main son groupe. Quand je vois les joueurs qui sont à la disposition de Didier Deschamps, évidemment, tu te dis il y a des choses qui seraient beaucoup, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux à faire. Alors pour les latéraux, je te rejoins. Moi, je choisirais les deux mêmes que toi, Moukiel et Hernandez. Pour moi, il y a pas photo là-dessus. Ça doit être les deux qui prennent les couloirs. Et puis après, j'aime bien le 4-3-3 avec le milieu. Chacun aura ses goûts, ses préférences. Et moi, un milieu avec Kanté, Pogba, Vertoux, Kanté, Pogba, Rabiot. Je trouve que c'est très bien. Rabiot, Ailier,
demain, quand t'es n'est pas là.
Ouais.
Donc là, tu mets qui? Tchouaméni ou Vertu?
Je mets Tchouaméni ou Vertu. Ouais. Un des deux, c'est pas grave. Il y a quand même des variations qui sont possibles. Mais Adrien Rabiot, moi, je comprends pas pourquoi il devrait jouer aussi haut. Il n'en a pas les qualités, pas le. Enfin, sur un match.
Après, il n'est pas prêt pour 90 minutes. Hein.
Et en plus de ça, il a pas une préparation physique qui lui permet justement d'avoir le volume pour occuper ce poste-là. Et puis devant, après, quand je vois le talent qu'on a en 4-3-3, pour moi, c'est l'absence d'Mbappé, c'est un événement.
Tu aurais fait quoi à la place d'Mbappé?
Moi, exactement comme Kevin. Griezmann, Coman, Benzema.
D'accord.
Ça me semble être une évidence.
C'est le plus simple.
J'accueille Valentin au 32-16, Afterien. Bonsoir, Valentin.
Bonsoir, messieurs, comment ça va?
Mais bien, et toi, on va t'accueillir dans l'after du vendredi soir. Alors, tu as écouté la compo probable qu'on a pu obtenir, celle de l'équipe de France. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que, déjà, ce système 4-4-2 qui nous avait plu, hein, enfin, moi qui m'avait plu personnellement face au Portugal, qu'est-ce que t'en penses?
Bah, honnêtement, ça m'emmerde.
Ah, ça mérite d'être clair. Vas-y, tu peux dire quoi? Pourquoi, clair, Valentin?
Ça m'emmerde comme depuis un bon moment devant les matchs de l'équipe de France. Bah, je me fais chier. Voilà, parce que c'est pas intéressant. Parce que je pense qu'on a une équipe qui pourrait bien plus dominer ses adversaires et qu'on ne le fait pas, qu'on a un potentiel et un réservoir de joueurs offensifs. Et malheureusement, Deschamps, je pense qu'il reste sur ce côté un petit peu coach, un petit peu fébrile. Et que quand je vois qu'on veut mettre Rabiot sur un côté, ça ne m'intéresse pas. Quand je vois que côté droit, on a envie de mettre Léo Dubois, qu'on voit qu'il est quand même, pour moi, en tout cas pour ma part, un petit peu limité comparé à Moukiele.
Non, et ça, il a même pas le niveau d'un joueur de Ligue 1, de top 5 de Ligue 1, Dubois. Faut arrêter au bout d'un moment.
Quand on voit que côté gauche, excusez-moi, moi je l'appelle comme ça, on met Ouin-Ouin parce qu'il était pas content, parce qu'il était pas là à la Coupe du Monde, à la place de Théo Hernandez, bah moi ça m'emmerde aussi. Voilà. Moi je jouerais vraiment avec 4 joueurs à vocation offensive. Donc en 4-2-3-1, potentiellement, avec, Benzema à la pointe. Avec un Griezmann un petit peu derrière lui, en sorte de faux neuf, faux dix, comme on veut, avec sur un côté un Coman et de l'autre côté un Martial.
Avec ça a de la gueule aussi.
Quatre
hein.
joueurs offensifs, ouais, peut-être jouer peut-être trop plus offensif que à l'habitude, mais au moins proposer du jeu. Je pense qu'on peut le faire.
Valentin, tu mets qui au milieu
de France?
Tu mets qui au milieu?
Au milieu, ouais. Bah, puisqu'il est pas là, du coup, bah, je mets pas N'Golo Kanté, mais s'il y a N'Golo Kanté là, je mets Kanté Pogba. Bon là, du coup, bah Pogba et moi personnellement, je suis un. Même si je suis porteur d'Angers, j'adore Aurélien Tchouaméni. Et donc, moi, je mets Tchouaméni au milieu de terrain. C'est vraiment un joueur que j'adore voir jouer.
Ouais.
Je suis même étonné qu'il soit resté à Monaco et je suis très content de le revoir encore cette année en Ligue 1. Moi, personnellement, je mets Tchouaméni avec Pogba.
Ce sera le cas, a priori.
Mais moi, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle. Tout à l'heure, on était avec Jeannot juste avant et qui nous est, il n'y a pas eu de mise en place. Mais comment il n'y a pas de mise en place? Mais c'est on joue.
C'est inquiétant.
On joue à quel niveau là pour ne pas faire de mise en place?
Surtout avec un changement de système.
Avec des joueurs qui arrivent dans l'équipe. Tu vois, Mini, c'est pas quelqu'un qui a, c'est sa deuxième sélection. Donc bon, après, encore une fois, on n'a aucune leçon à donner à Didier Deschamps en termes d'entraînement.
Non, mais
quand même, tu fais pas de mise en place dans une période compliquée. Moi, je connaîtrais des entraîneurs qui te feraient presque 2 heures de mise en place tactique sans faire un effort physique.
Peut-être qu'il n'est pas choisi en fait. Peut-être qu'il ne sait pas.
Mais je pense qu'il doute.
Peut-être qu'à 24 heures du match, même pas, il savait pas.
Il y a un point qu'on n'a pas soulevé depuis quand même un petit moment, c'est que tu soulèves quelque chose qui est juste. Il n'y a pas de mise en place tactique. Moi, ça me surprend pas. Et ça va avec le flou un petit peu qui entoure les choix de Deschamps depuis bien avant le fiasco de l'Euro sur les coups de pied arrêtés. Qui tire les coups francs, qui tire les pénaltys. C'est dans n'importe quelle sélection, dans n'importe quel club, c'est déjà réglé.
Bon, là maintenant, c'est les coups francs. C'est Mbappé ou Griezmann, oui, mais... les tirs au but, les pénaltys, c'est
Benzema. Même, oui, mais c'était quand même curieux, tu vois, que ça soit un petit peu au feeling. T'as eu les engueulades sur le bord de terrain pendant l'Euro, avec Pogba, avec Coman qui voulait pas sortir. T'as l'impression qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu des approximations que Deschamps n'aurait jamais fait auparavant. Deschamps, auparavant, quand on nous demandait quelles étaient les qualités et qu'est-ce qui faisait que Deschamps était un sélectionneur de niveau, c'était que rien n'était laissé au hasard, c'était la discipline, c'était l'école un petit peu italienne où les choses étaient cadrées, structurées. Et là, t'as l'impression que depuis la victoire en Coupe du Monde, il y a tout qui est un petit peu dans un espèce de flou artistique. Et quand tu me dis qu'il n'y a pas de mise en place tactique, bah, ça m'étonne pas du tout. Ça correspond à ce qu'on voit de l'équipe de France et à la prise en main de cette équipe par Deschamps depuis des mois maintenant.
De toute façon, oui. Et je pense qu'on peut dire clairement qu'il a perdu la main, c'est peut-être fort, mais avec la gestion du cas Benzema-Giroud. Il a fait revenir Benzema beaucoup trop tard en faisant croire à tout le monde qu'il avait pris sa décision bien avant alors que personne n'y a cru. Ensuite, là, le seul moment depuis 4 ou 5 ans où Olivier Giroud a trouvé un club, va être le leader d'une attaque, a fait une bonne préparation, il marque des buts, c'est là où tu choisis de ne pas le convoquer. Soit tu communiques.
Zlatan, t'imagines ?
Non, mais soit tu communiques pour dire voilà, Olivier Giroud, à son âge, il fait plus partie des plans de l'équipe de France. On tourne
la page. Il a été froissé, Deschamps. Il a fait comprendre dans une interview récente.
Bien sûr.
À propos de Giroud à l'encontre de Mbappé, certainement au début de l'Euro.
Non, mais d'accord, mais dans ce cas-là, c'est pas le seul qui aurait pu froisser.
Mais il tient beaucoup à la cohésion de son groupe. Il veut pas que des phrases sortent comme ça face à la presse. Deschamps, il a.
Non, mais là, je le comprends. Là, je le comprends.
Du vestiaire.
Le problème par rapport.
Quand on dit des choses à l'extérieur du vestiaire.
Oui. Mais le problème du cas Olivier Giroud, c'est qu'en fait, la manière dont il a justifié l'absence de Giroud lors de sa conférence de presse où il annonce sa liste, il dit la situation au club d'Olivier Giroud a toujours été un petit peu compliquée. Personne n'a sa place réservée en équipe de France, donc je ne l'ai pas pris. Mais mec, ça fait 5 ans que tu le prends alors que tu pas. Ouais. Elle est où la cohérence?
Mais elles ne servent quasiment à rien, les gars, les cons de Deschamps. On le sait, il dit ce qu'il veut, il assume même. Il s'en fout.
On sait. Mais c'est. On peut.
Mais il le dit quand même.
Pas de dire que. Ouais. De penser que c'est ridicule et que ça reflète un espèce de flou et de flou artistique à la tête de cette sélection là et que ça met là moi les mots sont peut-être forts, mais moi ça me met la haine quand je vois le potentiel que cette équipe a, quand je vois le réservoir de joueurs que cette équipe là, de voir que tu as à la tête de cette équipe un entraîneur pour qui on va faire une grosse prépa physique, on va miser sur l'esprit collectif et puis on va miser sur les talents individuels et qui ne met pas en place un plan de jeu et qui ne donne pas une personnalité à son équipe. Et surtout pour terminer, c'est que on nous a dit en long, en large et en travers que c'était très compliqué, voire impossible, de mettre en place un style de jeu et de donner une personnalité à des sélections nationales. Là, pendant l'Euro, on a vu tout le contraire. On a vu des équipes faire avec leurs moyens, mais justement se baser sur des entraîneurs qui travaillaient tactiquement et qui donnaient à leur équipe un style de jeu, de la personnalité et des résultats.
Mancini, Enrique,
même le Danemark. Regarde le Danemark, le faible réservoir de joueurs qu'ils ont par rapport à nous. Même,
tout à fait.
Tu vois, donc là, c'est très agaçant. Quand je vois ça, c'est très agaçant. Et quand on me dit, il y a pas très peu de mise en place tactique, ce qui me semble être quand même, et je n'ai pas été le joueur comme Kevin ou les autres, ça me semble être le béaba. Je trouve ça, mais aberrant.
Valentin, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus?
Oui, après, je rejoins Jonathan avec le fait que certaines équipes avaient, c'est vrai, des mises en place tactiques qu'on a vues pendant l'Euro. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Moi, je comprends pas comment on ne peut pas essayer de mettre en place quelque chose où, alors, peut-être pas tout changer non plus, mais c'est vraiment de mettre en place quelque chose et que surtout pour aider les nouveaux joueurs qui arrivent. Après, c'est pareil. Comment trouver la justification de dire on appelle plus Olivier Giroud? Bien, pourtant, j'ai pas été un de ceux qui défendaient Giroud et qui étaient plutôt ceux qui les gratignaient quand il était présent parce qu'il jouait pas. Et là, maintenant qu'il a trouvé un club, qu'il a du temps de jeu et qu'il marque, on l'appelle plus.
C'est tout sauf logique.
Alors dans ces cas-là aussi, on va aller prendre des gardiens de but qui sont même pas titulaires, qui sont remplaçants, voire même qui jouent en N3 dans leur club pendant qu'on y est. Non mais c'est n'importe quoi. On va prendre des joueurs qui Enfin, je sais pas. Je pense qu'il.
Non, mais comme dit souvent le coach, il nous dit souvent que souvent il y a des entraîneurs qui sont en méforme, qui ont un coup de moins
bien.
Oui,
je pense qu'il arrive en fin de cycle, un peu comme Joachim Löw avec l'Allemagne, peut-être.
Voilà.
Il est temps de changer, il est temps d'arrêter.
Je crois que Didier Deschamps, ça arrive à tout le monde. Il est peut-être moins inspiré, il a peut-être moins le contrôle sur les choses. Il a du mal à se remettre d'un euro qui a été très décevant et pour lui qui a une mentalité de gagneur, le premier. Et tout simplement, peut-être qu'il fait pas les bons choix en ce moment.
Peut-être qu'il est un peu perdu, effectivement. Ça nous arrive à tous parfois.
On
est perturbé.
Il souffre quand même aussi d'une chose, et je trouve qu'on l'a pas assez mis en valeur. C'est que même si Griezmann n'a pas été scandaleux à l'Euro, c'est quand même censé être lui le maître à jouer de cette équipe, et qu'il est quand même nettement moins bien par rapport à ce qu'il était.
Et il va sûrement aller mieux. Il retrouve sa maison, sa famille.
Il va aller mieux en allant à la
Tétine. Exactement.
On en est sûr de ça.
Après, pour moi, vous savez ce que j'en pense.
Mais moi, je pense comme toi. C'est passé.
Je pense que malheureusement, Griezmann sera toujours un très bon joueur.
Dis-le.
Non, je vais pas le dire. Je l'ai déjà dit.
Son apogée. Voilà. Son sommet.
Son apogée est passé, et que techniquement, attention. Techniquement, il aura toujours son pied gauche, il aura toujours sa grinta. Ça, il n'y a pas de souci. Son état d'esprit, son pied gauche sur les coups de pied arrêtés, il l'aura toujours. Mais c'est quelqu'un qui a commencé à jouer au football de haut niveau à 17 ans. Et quand on me dit, mais il est encore jeune, non. Quand tu as fait 12 ou 13 ans à t'entraîner tous les jours, avec les kilomètres que lui a demandé, notamment Simeone, un transfert éprouvant ensuite au Barça, eh bien, je lui souhaite de retrouver son niveau. Mais sa vitesse, sa vivacité, ce sera très très compliqué physiologiquement de la retrouver.
C'est sa capacité à répéter les efforts.
On va prolonger. Aussi. Je remercie Valentin d'abord. Merci Valentin d'être venu sur RMC dans l'after.
Merci beaucoup messieurs. Salut, bonne soirée.
Excellent.
Et je fais une petite dédicace.
Bien sûr.
Très rapide. C'est longue vie à DLB. La personne qui connaît se reconnaîtra.
Bon, très bien. Le message est passé. Il est privé. On n'a rien compris. Mais il est sûrement sincère. Excellente soirée à toi Valentin. À très vite dans l'after. Merci Valentin. Tu reviens quand tu veux bien sûr. Dans un instant on va prolonger sur l'équipe de France. On écoutera Hugo Lloris, qui semble un petit peu perturbé lui aussi par sa défense, par les hommes devant lui. Il est pas bien.
Est-ce que sa défense est perturbée par Hugo Lloris aussi?
C'est possible. Il y a beaucoup de secteurs de jeu qui sont perturbés en équipe de France. À tout de suite, Hervé sera avec nous, 32-16, c'est l'after avec Jonathan McCarty, Kevin Diaz.